On l'a donc appris en fin de matinée, l'ethnologue-anthropologue Françoise Héritier est décédée cette nuit à l'âge de 84 ans, le jour de son anniversaire. Directrice d'études à l'EHESS, elle avait succédé à Claude Lévi-Strauss au Collège de France en inaugurant la chaire d'études comparées des sociétés africaines. Elle a travaillé toute sa vie sur la construction de la hiérarchie entre le masculin et le féminin. Et ces dernières années, Françoise Héritier avait rencontré un grand succès auprès du public avec son livre « Le sel de la vie » qui avait été publié chez Odile Jacob. Cette tête au carré va lui être intégralement consacrée avec dans un instant les témoignages en direct de l'anthropologue Philippe Descola et de son amie, éditrice Odile Jacob. Et puis dans la seconde partie de l'émission, nous réécouterons l'entretien qu'elle nous avait accordé en décembre 2013 dans La Tête au Carré à l'occasion de la sortie de son ouvrage « Le goût des mots ». C'est Céline Hila qui réalise cette émission spéciale.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et moi aussi, je suis une ethnologue de raccro. C'est seulement les jeunes générations qui, disons qui depuis 30 ans peut-être, 30 ou 40 ans, ont la chance de pouvoir suivre un enseignement qui est un enseignement organisé et qui débouche sur des diplômes. Mais lorsque j'ai fait moi-même mes études, qui n'étaient pas de philosophie, beaucoup plus humblement d'histoire et de géographie, eh bien l'ethnologie n'existait pas dans le paysage. Il y avait un certificat qui était donné au Musée de l'Homme et c'était tout. Donc je l'ai passé parce que j'avais des amis philosophes qui m'en avaient parlé, qui, je veux dire étudiants en philosophie, et qui m'en avaient parlé et qui s'extasiaient surtout sur les enseignements de Lévi-Strauss à l'école pratique des hautes études. Et donc, je suis allée y voir et j'ai été subjuguée et séduite. Mais il a fallu ensuite que, et sur le terrain, et à partir de la littérature qui existe, je devienne ethnologue. Au départ, je ne l'étais pas du tout. Je pourrais dire exactement, j'utilise les mêmes, peut-être pas les mêmes mots, je ne dis pas un ethnologue de raccro, mais un ethnologue d'occasion.
Voilà, c'était en novembre 2008 dans La Tête au Carré, la voix de Françoise Héritier, dont on a donc appris la disparition ce matin. Anthropologue, ethnologue, féministe. Elle avait reçu un prix Fémina spécial la semaine dernière, d'ailleurs, pour l'ensemble de son œuvre. Pour lui rendre hommage aujourd'hui dans La Tête au Carré, nous sommes en ligne avec Odile Jacob, son éditrice et amie. Bonjour Odile Jacob.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Également au bout du fil, l'anthropologue Philippe Descola. Bonjour Philippe Descola.
Bonjour.
Odile Jacob, Françoise Héritier donc est partie le jour de son anniversaire, un anniversaire que vous deviez fêter avec elle.
Oui, je suis extrêmement émue, j'arrive pas à y croire. C'est une immense, immense tristesse pour moi. C'était non seulement une amie très proche, c'était une femme exceptionnelle, une intellectuelle hors du commun, mais Monsieur Descola en parlera mieux que moi. Nous venons juste de publier son livre merveilleux Au gré des jours, où c'est pour la première fois qu'elle se confie. Elle-même, c'est un petit peu quelques avant-mémoires en quelque sorte. Et voilà, elle a fait une œuvre théorique extraordinaire, une œuvre de terrain extraordinaire. Je devais effectivement fêter avec elle ce soir son anniversaire, parce qu'elle avait eu le prix Fémina il y a quelques jours, et elle a fait donc cette grande émission avec François Bunel vendredi. Et je n'ai pas pu fêter l'anniversaire aujourd'hui, j'arrive pas à y croire. On s'est parlé très très longuement dimanche. Et voilà, je devais la retrouver ce soir.
Philippe Descola, quand avez-vous vu Françoise Héritier pour la dernière fois ?
Il y a quelque temps déjà, parce que j'étais pas en France, je suis revenu il y a deux jours, j'étais en Asie du Sud-Est. Et à mon retour, hier, j'ai vu qu'elle avait fait une émission, Françoise Héritier, sur France Culture, je crois, que j'ai écouté en ligne, et j'ai été frappé par le ton vif, gai, de ses propos, et c'est pour ça que je ne m'attendais pas du tout à l'issue d'aujourd'hui. Elle était malade Françoise depuis très longtemps, mais elle savait surmonter les épreuves de sa maladie avec beaucoup de courage, et c'est pour moi une terrible surprise que d'apprendre sa mort ce matin.
Odile Jacob, le premier ouvrage que vous avez publié de Françoise Héritier, c'était en 94, Les deux sœurs et leur mère, une anthropologie de l'inceste, et puis ensuite Masculin-féminin en 1996, des ouvrages très très importants, et puis plus récemment le sel de la vie en 2012. Qu'est-ce qui distingue finalement ces ouvrages et sa relation au public, qui a beaucoup changé au fil du temps, hein ?
Beaucoup, beaucoup changé. Donc, comme vous le savez, c'était aussi une très grande militante de la cause des femmes, une militante apaisée. Donc elle s'est beaucoup consacrée aux grands problèmes des hommes et des femmes, de la différenciation des sexes. Et là, tout d'un coup, elle ose parler à chacun d'entre nous, elle ose s'exprimer, et on découvre un très grand écrivain avec Le sel de la vie. Beaucoup, beaucoup de Françaises et de Français, je crois, se sont retrouvés à travers ce livre. Elle a eu un immense succès, elle a reçu des lettres extraordinaires qui la touchaient énormément. Et tout d'un coup, elle est devenue, comment dirais-je, tout le monde la connaissait comme cette très grande intellectuelle qui avait succédé à Claude Lévi-Strauss et qui avait fait donc cette œuvre théorique extraordinaire. Tout d'un coup, on découvre une femme d'une sensibilité incroyable, très profonde et très modeste, qui était un écrivain.
Ouais, Philippe Descola, justement, Françoise Héritier, la deuxième femme à être entrée au Collège de France, adoubée donc par Claude Lévi-Strauss. Ça s'est passé comment, finalement, son arrivée dans ce temple de la science emmenée par les hommes?
Oh ben, elle en a parlé à plusieurs reprises. Elle s'est trouvée dans une situation un peu ambiguë et embarrassante, mais je crois qu'elle a... Embarrassante parce que tout simplement, ses collègues masculins n'avaient pas beaucoup l'habitude d'avoir des femmes en leur sein, et progressivement, elle a réussi à imposer, au fond, le respect, d'abord parce que c'était une discipline qui n'est pas tellement connue. L'anthropologie, c'est une science, j'allais dire, mineure, en tout cas, peu de gens en sont familiers, y compris parmi les professeurs du Collège de France. Et donc elle a, au fil du temps, réussi à imposer et sa présence et le magistère intellectuel qu'elle exerçait dans son domaine auprès de ses collègues. Mais je voudrais revenir sur ce que disait Odile Jacob. En effet, ceux d'entre nous qui avions le plaisir de la connaître avions au fond l'expérience de deux femmes assez différentes. Il y avait le savant, un savant quelquefois austère. Certains de ses livres, comme L'exercice de la parenté par exemple, sont des livres difficiles. D'autres sont des livres plus destinés à un public plus large. Mais on ne connaissait pas cette femme d'une grande vivacité, prime sautière, gaie, attentive aux petits plaisirs de la vie, qui est apparue dans son dernier livre. Je n'ai malheureusement pas encore pu lire le dernier, dans l'avant-dernier donc. Et cette personnalité, en quelque sorte, était d'un côté la femme de conviction et qui a joué un rôle d'ailleurs politique et moral important dans les différentes institutions où elle a exercé son savoir-faire, en particulier au Conseil national du SIDA, où elle a joué un rôle extrêmement important pour que les institutions et les grandes entreprises, les sociétés d'assurance, etc., prennent en compte cette maladie. Et en même temps, derrière cela, il y avait quelqu'un de simple, de généreux, d'une grande vivacité, simplicité. Et c'est cette double personnalité qui s'est révélée à travers le livre pour un public plus large qu'elle a publié.
Odile Jacob, il y avait effectivement cette douceur, ce sourire dans la voix de Françoise Héritier, et puis en même temps, il y avait quelque chose, quand on la rencontrait, qui était extrêmement intimidant.
Oui, parce que c'était probablement une femme hors du commun. Elle avait toute l'autorité du professeur au Collège de France, de la femme qui avait siégé au Conseil national d'éthique, qui avait eu des responsabilités très très importantes, et puis tout d'un coup, on se trouvait en face d'une femme totalement naturelle, totalement authentique, totalement profonde, d'une simplicité incroyable. Et donc, il y avait évidemment, c'était peut-être difficile pour certaines personnes de réconcilier l'image qu'ils avaient d'elle, comme avec son autorité intellectuelle, et en même temps, cette femme si simple, si douce, si profonde et si gaie.
Philippe Descola, qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui de ces grands thèmes de recherche et de réflexion entre la parentalité, l'inceste, le rapport des catégories de genre, la violence, la symbolique des corps? Pour les plus jeunes qui ne connaîtraient pas forcément Françoise Héritier, qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui?
Oui, il y a beaucoup à retenir. Il y a d'abord ses premiers travaux, ceux par lesquels elle a débuté sa carrière d'anthropologue et qui sont issus de son terrain en Afrique de l'Ouest, chez les Samo du Burkina Faso, et qui sont consacrés d'abord essentiellement à la parenté. elle a étudié des formes d'alliance de mariage qu'on appelle les structures semi-complexes dans notre jargon, c'est-à-dire des formes d'alliance de mariage dans lesquelles ce sont des catégories de conjoints qui sont prohibées. Et elle a fait cette forme d'alliance de mariage dont on pensait qu'elle était très très difficile à formaliser. Elle a réussi à les formaliser, notamment avec l'aide de l'informatique. Elle a été une pionnière absolue dans ce domaine. Pour montrer la logique de leur fonctionnement. Et progressivement, à partir de ses premiers travaux donc, qui ont bouleversé les théories de la parenté, elle s'est intéressée à la question, au fond, de ce qui fonde les logiques de compatibilité et d'incompatibilité dans l'alliance de mariage, en particulier la théorie des humeurs, la théorie des substances corporelles, qui fait que certains types de conjoints sont prohibés, et d'autres pas. Et ça a débouché sur une théorie de l'inceste originale, qu'elle a appelée la théorie de l'inceste du deuxième type, et qui est fondée sur l'idée qu'il ne peut pas y avoir de rapport entre des parents par l'intermédiaire d'une troisième personne avec laquelle on aurait des rapports sexuels. Et donc elle a bouleversé la théorie de l'inceste classique, si vous voulez, en introduisant cette idée de la compatibilité ou de l'incompatibilité des humeurs. Et puis progressivement, évidemment, elle s'est intéressée à la question des fondements de la domination masculine qu'elle voyait comme universelle, mais sans concession, c'est-à-dire en ayant l'espoir que en comprenant les mécanismes de cette domination, on puisse l'enrayer. Et c'est la troisième partie de son œuvre, celle qui porte sur les rapports entre les sexes et qu'elle a développé dans une perspective féministe et son engagement féministe est bien connu et qui aboutit à ses travaux absolument fondamentaux sur les formes de la domination masculine.
Odile Jacob, pour terminer, Françoise Héritier s'est exprimée très récemment sur les débats récents autour des violences faites aux femmes. Vous aviez pu en discuter avec elle, hein ?
Oui, un petit peu. Elle en a parlé justement il y a quelques jours, oui, tout à fait. Enfin, elle restait, si vous voulez, très engagée sur ce combat des femmes, mais de manière très apaisée, parce qu'elle comprenait aussi que d'en parler beaucoup et partout pouvait provoquer des choses graves et dangereuses. Donc c'est assez complexe, là, sur ce sujet-là.
Merci beaucoup, en tout cas, Odile Jacob, pour votre témoignage aujourd'hui à l'annonce de la disparition donc de votre amie, Françoise Héritier, et puis tous ces livres qu'on peut retrouver, évidemment, dans votre maison d'édition, et le plus récent, Au gré des jours, qui est paru en octobre dernier. Merci beaucoup également à vous, Philippe Descola, pour toutes ces informations et tous ces souvenirs que vous nous avez racontés autour de Françoise Héritier. Merci à tous les deux. On va l'entendre dans un instant. Extrait d'une interview, justement, qu'elle nous avait accordée. C'était en 2013, à l'occasion de la sortie de son ouvrage « Le goût des mots ». Et vous êtes dans La Tête au Carré, spéciale émission consacrée donc cet après-midi à Françoise Héritier.
Tout a débuté un matin quand à 10h10 je fus tiré du lit par l'emmerdeur de service. Mon voisin du dessus en bon fan d'Elvis me passe ses week-ends à fond des lives de Memphis. Le pire c'est que je n'ai quasiment pas d'or, mais de la nuit sache qu'hier au soir je suis sorti mec jusqu'à 6h du mat. Tu peux comprendre ça, ça ne me fait pas plus de 4h de sommeil exact. Je vais encore passer la journée là tête dans les vapes. En plus j'ai des rendez-vous importants, des interview, ça risque d'être chaud, je suis de mauvaise humeur, je l'avoue, mais j'assume, je contrôle d'ailleurs, je suis déjà au volant de ma quelle direction les abaisse. Oh, j'ai rendez-vous avec l'homme que l'on nomme Joey Star, mais j'ai pas fait 500 mètres que les keufs m'arrêtent et me prient de me mettre sur le côté afin de me soumettre à un contrôle d'identité, simple formalité quand on a ses papiers. Mais voilà là, je les avais pas sur moi, j'ai donc été invité au commissariat. Là, ils m'ont mis la fièvre pendant des heures, mais ils m'ont mis la fièvre pendant des heures, mais ils m'ont mis la fièvre.
à 3h maintenant que je l'attends. Hâte de faire la banque kilométrée comme trop souvent. Le revoyant me précisant, mon assistant, qu'il me faut d'arriver dans les temps pour un truc important. Quand t'apparaît devant moi une pièce, c'est mal barré pour que je reste planté là. C'est mal barré, faut que je me décide et fasse mon choix. Tant de réactions très nettes, c'est net. J'ai plus qu'une seule idée en tête, faut que je la serre. Avant que cela ne me manque, il faut qu'on fasse la paire. Mais il faut que je t'en perde, mon excitation. Oh, regarde, j'ai déjà la fièvre à la vue de ce canon. Donc ce zéplos, trop contemple à tes pieds.
Non, laissez-moi encore un peu de temps, c'est pas le bon moment.
Je sais, j'ai pas la journée, mais je peux prendre tout mon temps. Tant il lui plaît que je lui fasse du rock dedans. Cette forme qui s'endule, moi ça chaîne. Tant pis pour qu'on le chaîne, j'en lâche pas, non, j'enchaîne. Comme se le doit leur fèvre. Jamais, jamais d'un coup de lièvre. Alors, pendant des heures,
mais elle m'a mis la fièvre.
Pendant des heures, mais elle m'a mis la fièvre. Pendant des heures,
mais elle m'a mis la fièvre.
Pendant des heures, mais elle m'a mis la fièvre. Pendant des heures,
mais elle m'a mis la fièvre.
Pendant des heures, mais elle m'a mis la fièvre. Pendant des heures,
mais elle m'a mis la fièvre.
Pendant des heures, mais
mais ils m'ont mis la fièvre. Pendant des heures, je restais assis sur un banc contre le radiateur. J'avais pourtant des choses à faire. J'avais beau le répéter, mais y'avait rien à faire. C'était définitivement pas mon jour. Déjà le rock au réveil, j'étais pas vraiment pour. Y'a des jours comme ça où tout ne va pas pour le mieux. Y'a des jours où tout part en couille, tout court.
Parle pour toi, ne chien, car pour moi ça fait terrible. J'ai passé la journée avec une meuf terrible. Une pillage de magazine, beaucoup plus bonne que la plus bonne de tes copines. Donc, je te laisse imaginer la suite. Je te fais pas de dessin, ça risque d'être censuré dans le clip. Mais bon, il n'y a pas de répit, pas de trêve. Pendant des heures et des heures,
je lui ai mis la fièvre.
Pendant des heures, je lui ai mis la fièvre. Pendant des heures,
je lui ai mis la fièvre.
Pendant des heures, je lui ai mis la fièvre. Pendant des heures,
je lui ai mis la fièvre.
Et c'était NTM à l'instant.
La tête au carré sur France Inter.
Émission spéciale aujourd'hui autour de la disparition de l'anthropologue Françoise Héritier avec l'entretien qu'elle m'avait accordé en 2013. Françoise Héritier, anthropologue, professeur honoraire au Collège de France. Vous êtes donc l'invité cet après-midi de La Tête au Carré. Les auditeurs nous rejoignent avec les messages sur franceinter.fr et puis également l'attaque et le compte Twitter de La Tête au Carré. Bienvenue dans notre orchestre alors, hein, puisque hors antenne, vous me disiez, voilà, j'ai l'impression de voir l'animateur comme un chef d'orchestre.
Exactement,
c'est ça ?
Exactement, comme un chef d'orchestre avec tous ses papiers, ses livres, ses sabilots, ses crayons.
C'est vrai, on a aussi notre partition qui est ouverte pour accueillir nos invités et pour parler, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de sujets de conversation qui nous intéressent avec vous aujourd'hui, mais en tout cas de ces ouvrages que vous appelez vos fantaisies, le dernier ouvrage qui est sorti donc il y a quelques semaines, Le goût des mots chez Odile Jacob, et puis l'année dernière c'était le sel de la vie. Est-ce que d'abord ces deux ouvrages vraiment très particuliers, hein, dans votre parcours, ont quand même un lien avec l'anthropologie, ou est-ce que c'est un exercice totalement différent ?
Ils ont un lien avec l'anthropologie, parce que d'une certaine manière, il y a dans chacun un regard qui est porté véritablement sur le monde qui nous entoure et sur un monde anthropisé, un monde où il y a l'homme, un monde social. Donc, à la limite, je pense que le sel de la vie, qui est peut-être celui qu'on présente comme le plus intime, contrairement aux apparences, ne dit très peu de choses sur ma propre vie, ma biographie, ce que je peux penser, mais pour un lecteur attentionné, dit quelque chose de notre monde contemporain, avec un regard d'anthropologue. Et je pense qu'il est là, sous-jacent. Naturellement, ce n'est pas un ouvrage anthropologique, mais si je n'avais pas été anthropologue, je ne sais pas si je l'aurais fait.
Oui. Et le fait, justement, de les avoir écrits très récemment, une fois vos cours terminés, en tous les cas, est-ce que c'est un hasard ? Est-ce que vous auriez pu écrire ces ouvrages beaucoup plus en amont, ou pas ?
C'est une question qui m'est souvent posée et qui m'intrigue d'ailleurs, parce que je n'ai pas véritablement de réponse. Je n'y ai jamais pensé avant. Et je n'y ai jamais pensé non plus de façon claire, en me disant, il faut que j'écrive des choses d'une autre nature. Il se trouve qu'il y a eu un déclencheur totalement stupide, puisqu'il s'agit d'une carte postale, c'est ce que je raconte dans Le sel de la vie, et qui a ouvert les vannes. parce que c'est en répondant par mail à quelqu'un d'extrêmement débordé, enfin qui un médecin qui accorde tout son temps à ses patients et à la clinique et qui m'écrivait.
Votre médecin, vous l'écrivez.
Et qui m'écrivait avoir volé une semaine de vacances, et ça m'a fait un choc. Et je lui ai répondu que c'était nous qui lui volions son temps, et que lui, il se laissait voler le sel de la vie. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait le sel de ma vie? Et en lui répondant, parce qu'il avait la gentillesse de me répondre aussi, j'ai commencé à écrire des mails de plus en plus précis sur ce qu'était le sel de la vie, en inventant une forme narrative avec des verbes et des compléments, enfin, sous une forme de long poème avec des virgules entre ces séquences, oui. Mais sans fin. Un long poème qui affouille de plus en plus profond, si vous voulez. Au départ, je disais des grosses choses du genre aller au cinéma, aller au théâtre, et à la fin, il s'agit de choses très pointues, beaucoup plus fines, mais qui essaye de rendre compte de ce qui fait l'intérieur d'une personne. Nous sommes des personnes et généralement, nous nous définissons par rapport à autrui par toute une série de catégories extérieures. Je peux dire que je suis mariée ou pas, j'ai des enfants, j'ai telle profession, j'ai tel âge, j'ai un tel revenu, j'ai telle voiture, je vis à tel endroit. Enfin, je peux être définie, telle conviction politique ou religieuse, je peux être définie par une série de composantes. Mais ça ne dit rien de ce que je suis. Alors que ce que je suis, c'est cette sédimentation, couche après couche, patiemment, très patiemment, l'une après l'autre, de toutes ces impressions, ces sensations, oui. Ces perceptions que j'ai ressenties.
Mais comment est-ce que vous expliquez que ces livres aient à ce point touché le public?
Alors, je ne sais pas. Je pense, comme souvent c'est le cas, que je me suis trouvée au bon moment, au bon endroit, à la bonne heure. Enfin, et que vraisemblablement, il y avait dans cette sincérité, parce que oui, je pense que c'est un livre extrêmement sincère, dans cette sincérité, une représentation à la fois très personnelle, puisque c'était la mienne, mais en même temps universelle. Et c'est ce passage en permanence du personnel à l'universel qui trouve son répondant en face. C'est-à-dire que les personnes qui me lisent se disent « moi aussi ». Moi aussi, je n'ai pas eu cette sensation-là, mais une autre voisine. Et cette sensation-là, peut-être d'autres que l'ont eue, et nous sommes dans l'universalité de la nature humaine.
Ouais. Alors, ces deux livres illustrent aussi un goût que vous avez pour les listes.
Oui.
Ça, ce sont des choses que vous faites depuis très longtemps?
Oui, oui.
Vous répertoriez, vous écrivez quotidiennement?
Pas quotidiennement, mais maintenant, mon goût pour les listes s'est transmué dans un goût où beaucoup de personnes se rencontreront en vieillissant, on a tendance à oublier. Alors j'ai des listes quotidiennes de choses à faire, ce qui est beaucoup moins intéressant que les listes que je pouvais faire autrefois sur des choses qui me plaisaient. Mmh. Et donc ce goût pour les listes, bon, je ne dirais pas qu'il m'envahit, pas du tout, mais je veux dire, oui, j'ai tendance à essayer de rassembler sous une même étiquette des choses qui me plaisent. Mais c'est aussi un goût pour la minutie, un goût pour le détail, tout en sachant que le diable se niche dans les détails, mais un goût pour le détail. Je dois dire quelque part que mon goût pour les mots s'apparente au goût que j'avais depuis ma plus tendre enfance pour la mercerie. La mercerie, ça ne dit plus rien à personne maintenant, il n'y a plus de mercerie.
Ça évoque des choses quand même.
Mais ça évoque des choses. Et c'était des boutiques remplies de petits tiroirs avec dedans des boutons qui étaient cousus sur des plaques de carton et qui étaient avec selon les formes, selon les tailles, selon les couleurs. Et puis il y avait tout le reste, les rubans, les extraforts, les fils, les cotons. Et c'était prodigieux. Et donc ce goût-là, il s'apparente à celui des mots, vous voyez. Donc ce goût intime pour cette espèce de diversité extraordinaire de la créativité humaine.
Qu'est-ce que vous appelez la parlure exactement, Françoise Héritier?
Non,
alors comment
parlure,
il faut l'entendre?
C'est autre chose. La parlure, pour moi, je croyais avoir fait une invention verbale. En fait, c'est un mot qui a déjà été inventé et notamment utilisé, semble-t-il, par Lacan et peut-être par d'autres, mais en tout cas, on m'a cité Lacan. Pour moi, parlure désigne ce que Ignace de Loyola appelait la parole loquace, la loquace parole intime. Et c'est-à-dire, c'est cette parole intérieure que nous avons en permanence, qui est oblitérée quand nous parlons naturellement, ou quand nous écrivons, quand nous sommes en train de nous livrer à une tâche intellectuelle qui prend le dessus. Mais en permanence, lorsque nous arrêtons d'avoir cette activité qui nous prend officiellement, il y a derrière toujours ce petit discours intime qui nous parle. Alors, on n'y prête pas attention. Mais il est là. Et j'aime le retrouver parfois sur le visage des gens. Je dis, par exemple, comme je voyage beaucoup en taxi, qu'il m'arrive de reconnaître sur le visage des gens qui marchent dans la rue et qui n'ont pas les écouteurs aux oreilles.
Oui. C'est
pas
simplement on en trouve encore. Hein.
On en trouve encore. Et bien, on voit de temps en temps quelqu'un dont on a l'impression qu'il sourit aux anges. Ben, il sourit aux anges parce qu'il a son intime parlure qui est en train de lui dire quelque chose qui lui fait plaisir.
Ouais. Mmh. Alors, on parle bien de l'oralité, hein, justement.
Ça, c'est vraiment. De l'oralité.
On n'est pas du tout dans le domaine de l'écrit.
Absolument pas.
Et on voit d'ailleurs à quel point le discours de l'oralité, le son des mots, la tonalité qu'on peut donner aux mots. Et d'ailleurs, vous citez un exemple en Afrique avec des locuteurs analphabètes d'une langue africaine. Quelle est cette langue d'ailleurs,
C'est les Samo du Burkina Faso, mais ils sont pas une. C'est pas du tout un apox. Ouais, c'est très très constant. Les langues africaines possèdent des longues et des brèves et des tons.
Donc il y a une tonalité sur certains mots et en fonction de la tonalité, le sens du mot change.
Sur les syllabes. Alors mais comme ils ne le voient pas écrit. Moi, je dis que l'écriture nous oblige à visualiser. Et quand nous visualisons, nous visualisons des phonèmes, enfin tels que nous les écrivons.
Oui.
Mais eux, qui n'ont pas l'écriture et qui sont en alphabète, ils ne peuvent pas visualiser. Les mots n'existent que dans l'oreille. Et donc, dans l'oreille, chaque phonème est distinct en fonction de sa longueur et de sa hauteur de ton, et pas seulement des lettres qui sont utilisées. Ce qui fait que les gens qui me parlaient, je les comprenais, parce qu'en contexte, je resituais bien le sens des mots. Mais quand je devais parler moi-même, je ne savais jamais quand j'utilisais un mot comme Thierry, qui est le mot que j'utilise en le disant à la française, Thierry, plat. Mais si vous dites Thierry ou Thierry, c'est tout à fait différent. Et encore là, j'ai pas mis des longues et des brèves. Vous pouvez dire comme ça, la brousse, les reins, le chef, le cœur, enfin toute une série d'expressions. Vous doutez bien que...
Sur le même mot, donc on a des sens très différents.
Alors c'est apparemment le même mot. Parce que pour les gens, ce sont des mots très différents.
Ouais.
Et ils ne comprenaient pas que je puisse me tromper.
Ouais.
Alors, soit ça les faisait rire, soit ça les mettait en colère. Ils se disaient quand même, il faut vraiment que tu sois dur de tête pour faire la confusion entre rein et chef, par exemple.
Mais ça a dû être terrible pour apprendre la langue, justement. Quand vous êtes arrivé pour la première fois donc en Afrique, c'était en Haute-Volta, donc Burkina Faso aujourd'hui, vous aviez quel âge ?
J'avais 24 ans.
24 ans. Donc, il faut aussi vous immerger dans une langue totalement nouvelle.
Ah, il faut s'immerger.
Que vous n'aviez jamais entendue.
Absolument.
Ça a dû vous demander un travail considérable.
Ah, ça demande beaucoup de travail, surtout quand on est peu doué comme moi.
Pour les langues ?
Pour les langues. J'étais très peu douée pour les langues.
Oui.
Ça demandait beaucoup de travail. Et je suis pas, quand j'ai quitté la dernière fois le pays Samo, j'arrivais à comprendre tout ce qu'on me disait. J'arrivais à parler un langage assez courant, un petit peu. Vous savez, comme en France, quand on ne parle pas bien l'anglais, on est capable quand même de se débrouiller.
Mm-hmm.
Mais je n'ai jamais réussi à le parler vraiment de façon courante, comme je parle le français.
Oui.
C'est évident. Et maintenant, je l'ai oublié.
Mais qui vous a appris alors là-bas sur
le
place
contact,
c'est juste
l'usage.
Écouter
L'usage, la notation
et le
travail de traduction au quotidien avec quelqu'un de ce que j'avais enregistré.
Oui. Vous aviez déjà le goût des mots avant ces voyages africains ou pas ?
Alors le goût des mots, je l'ai depuis l'enfance. Parce que dans ce livre, le goût des mots, j'essaye de mettre en situation deux types particuliers de place de l'oralité, mais qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre apparemment. Et qui pourtant si ont un rapport profond dans une sorte de théorie du langage que j'essaye de formuler, mais brièvement et sans trop m'y attacher. Et le premier, c'est que notre première découverte du langage passe effectivement par l'oralité. Et les enfants, ils entendent les mots et ils entendent des mots. Et ils doivent donner du sens à ce qu'ils entendent. Progressivement, ils vont apprendre le sens que j'appelle du dictionnaire. Le sens usuel qui a été parachevé par l'usage et que maintenant tout le monde connaît. Bon. Mais il y a tout un temps qui peut perdurer pour certains, qui a perduré chez moi tout un temps, où un enfant, sur les mots qu'il entend, brode en imagination. Et je suis pas la seule d'ailleurs. Maintenant qu'on me l'a re-signalé, je suis contente de signaler Colette, par exemple, et son presbytère. Ouais, je sais pas si vous vous souvenez, où elle dit, dans la maison de Claudine, où elle explique que la première fois qu'elle a entendu le mot presbytère, c'est un mot qui lui est tombé comme un diamant dans une escarcelle. Ouais. Mais elle savait pas ce que c'était. Pas question de demander. Elle a pensé que c'était, que ça désignait un escargot. Un escargot à spirale marron et blanche. Et puis un jour, elle s'est trahie en se précipitant sur sa mère en disant « Maman, regarde le joli petit presbytère que j'ai trouvé ». Et naturellement, la mère s'est moquée d'elle en lui disant « Mais c'est pas un presbytère, c'est un escargot. Le presbytère, c'est à la maison du curé ». Bon, et bien voilà. Et bien ce jeu-là, j'ai joué à ça toute mon enfance, à donner à ces ensembles de syllabes un autre sens que le sens qu'ils ont dans le dictionnaire. Et quand je dis que j'ai joué à ce jeu-là jusque tardivement, je crois que ma dernière grande inventivité en ce domaine date d'il y a 10 ans avec le mot procrastination. Quand je l'ai découvert, je connaissais pas vraiment, qui veut dire remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui, tout bêtement. Eh bien, pour moi, avec la connotation des procras, vous voyez, ces ensembles de consonnes, etc., eh bien, ça représente une bouche vraiment pleine de crachats et d'injures et d'invectives qui vous crachent à la figure son venin. Et je le vois un peu comme l'évêque Cochon, vous savez, dans le film de Dreyer, Jeanne d'Arc, en gros plan, on le voit en gros plan, de profil, la bouche infâme, avec le visage tout grêlé, en train de proférer
des... Ça vous évoque la procrastination. Alors, voilà. Françoise Héritier, ce courriel de Larry nous dit ceci, les mots nous lient au monde et nous permettent d'interagir avec eux, mais malheureusement, ils peuvent également nous enchaîner et nous en extraire. La langue de bois, ou la com aujourd'hui, ne détruit-elle pas ce goût des mots bien plus que le mensonge?
Oh, bien entendu, la langue de bois est quelque chose contre laquelle je m'irrite beaucoup quand je la rencontre, quand on la rencontre sur sa route. Je ne sais pas si c'est la langue de bois ou ce qu'on appelle maintenant les éléments de parole. Mais ça revient au même, je pense, les éléments de parole que l'on donne sur le plan politique en disant c'est comme cela qu'il faut répondre à tel ou tel type de question. Non, mais ce qui me gêne le plus là-dedans, c'est la non-créativité. Parce que dans la langue de bois, il s'agit surtout de, je vais utiliser une expression toute faite, ça correspond à noyer le poisson. Bon, or, en fait, moi, ce que je cherche plutôt, ce n'est pas à noyer le poisson, c'est à l'extraire et à le montrer vraiment. Et même à montrer avec toutes ces écailles bien luisantes, vous voyez. Et donc, et c'est pour cela que la langue de bois est tout à fait aux antipodes de ce que je souhaite faire.
La suite de cet hommage à Françoise Héritier dans un instant avec cet entretien qu'elle nous avait accordé en 2013 autour de son livre Le goût des mots, ce sera dans quelques minutes après de Léminanaz.
Bring you back.
Istanbul is sleepy avec The Liminanaz.
La tête au carré.
Voilà, à réentendre ensemble cet après-midi la voix de Françoise Héritier. L'anthropologue s'est éteinte donc cette nuit à l'âge de 84 ans. Elle était venue à plusieurs reprises dans la tête au carré. Et en 2013, en particulier autour de cet entretien, Le goût des mots, dont voici la suite. Écoutons évidemment Claude Lévi-Strauss. Françoise Héritier. On va l'entendre dans cet extrait de 1951 qui avait été diffusé sur la RTF, la chaîne nationale, évoquer les différentes cultures, justement, sous-entendues et sous-tendues par les mêmes éléments, avec en particulier le langage. On écoute Lévi-Strauss.
Chaque langue, chaque croyance religieuse, chaque forme d'art traduit une expérience totale qui n'est pas la même pour tous les peuples, et qui exprime de façon très précise et très concrète ses besoins particuliers. Et il n'y a pas besoin de supposer que les Bantous ou les Dakotas sont inférieurs aux Français ou aux Anglais pour admettre l'évidence, à savoir qu'ils sont aux prises avec des expériences très différentes des nôtres, parce que leur histoire n'est pas la même, parce que leurs possibilités techniques ne sont pas les mêmes, parce que leurs idéaux d'existence ne sont pas les mêmes. Et la langue traduit, exprime très exactement ces différences d'expérience qui caractérisent chaque civilisation.
Voilà, Françoise Héritier, justement, sur l'importance de la langue, sur nos singularités, et puis en même temps, tout ce qui fait qu'on se retrouve et qu'on arrive à se comprendre.
Oui, parce que Lévi-Strauss insiste sur le fait que la langue rend compte de ses expériences toutes très particulières, et elle rend compte aussi, malgré tout, dans ses expériences très, très singulières, elle rend compte de ce qu'il y a d'universel dans ses expériences.
Voilà, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, précisément.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Autour donc de ces peuples africains. Vous parlez de sidération autour de certains mots. Alors, c'est un mot très fort, la sidération.
Ah oui. Oui,
mais comment est-ce qu'on peut être sidéré autour d'un mot comme armoire, par exemple?
Mais le mot armoire m'a sidéré enfant. Oui, c'est vrai que j'y fais un sort sort particulier, parce que je me souviens de cette sidération. Ouais. Parce qu'il fait partie de ce groupe. Parce que tous les mots n'ont pas cette consistance. Il y a des mots ne supportent pas cette interrogation enfantine. Il y a des mots qui me paraissaient enfant très bien convenir. Éternuer me paraissait très bien convenir à ce qu'il avait à dire, si vous voulez. Et puis, il y a des mots qui ne me paraissaient pas convenir, dont je comprenais pas le sens et qui me paraissaient pas convenir et auxquels je donnais un sens à moi. Et de cela dont je parle avec cette nécessité créatrice, libératrice de l'enfant et qui se poursuit chez l'adulte. Et puis, il y a ceux qui ne paraissent pas convenir, mais à qui on ne donne pas d'autres définitions. Et armoire fait partie de ce paquet. Il me paraissait pas convenir à ce que je voyais, à l'usage qu'on faisait d'un meuble benoît d'aspect, qui servait à faire des choses toutes simples, ranger du linge, et où pour moi, à cause du caractère massif, trapu, de la chose, et puis surtout de la sonorité dure du ar qui commençait, et de la sonorité au contraire douce et moirée du moire, qui invoquait le taffetas des couleurs un peu violette et ouverte de ces tissus d'autrefois, vous voyez, qui garnissaient ces armoires. Il y avait à la fois le vertige devant le gouffre sans fin du art, et puis l'idée d'être happé dans des douceurs un peu glissantes et soyeuses du moire. Ouais. Mais ça ne correspondait pas, encore une fois, à la chose ventrue.
Ouais. C'est quasiment le contraire de l'armoire et le contraire de Marlène Dietrich, on pourrait dire. Parce que Cocteau parlait justement de Marlène Dietrich.
Marlène Dietrich, dont Jean Cocteau disait que c'est que le nom commençait comme une caresse et finissait comme un coup de cravache.
Voilà. Et c'est le contraire de ce mot armoire, en tout cas pour vous.
Hein, c'est exactement
dans sa sonorité.
La même chose.
Olivier nous envoie ce message. Je vous écoute depuis Londres et moi, les mots que j'aime sont ceux de Françoise Héritier, de Claude Lévi-Strauss. Il me rappelle mes années de sociologie à Nantes quand Charles Suot, grand sociologue, nous citait ces deux géants des sciences sociales, invariants, variants et autres. Et c'était bien la fac. Ça aussi, ce sont des souvenirs qui émergent.
Oui.
Et qui font partie de ce que vous écriviez dans Le sel de la vie, hein. Oui, ces images.
Oui. Mais il reste à ce monsieur des images. Oui. Et moi, il me restera le souvenir de cette petite intrusion rapide dans ce studio.
Absolument. Alors, il y a aussi justement une évocation de Claude Lévi-Strauss dans Le sel de la vie, où vous parlez d'un moment où il vous pose une question sur une présentation. Et il vous demande ce que vous en pensez et il n'y a pas d'explication possible. aussi parce que vous n'avez pas compris, vous non plus.
Oh, mais c'est un...
Ça, c'est un souvenir terrible.
J'y fais une allusion rapide parce que c'est un... Enfin, je pense que toutes les personnes qui auraient été interpellées de la même manière me comprendront. Bon, j'étais beaucoup plus jeune. Et c'était à son séminaire. Et à son séminaire, des personnes étaient invitées à venir faire des conférences, des exposés. Et il y avait eu un exposé de linguistique, extrêmement intéressant sans doute, mais auquel je n'avais rien compris du tout. Et je pense que lui non plus. Or, il se trouve que le hasard des choses avait fait que j'étais arrivée un peu en retard et qu'au lieu d'avoir trouvé une place assise dans le parterre un peu moutonnant de la salle, j'étais debout au fond. Et donc, Lévi-Strauss, quand l'exposé a été achevé, remercie très courtoisement l'oratrice, dit tout le bien qu'il a pensé, etc. En deux mots, c'était remarquable, etc. Il dit, il y aura sûrement pas mal de questions dans la salle, se retourne, balaye l'auditoire du regard, me voit debout dans le fond et il dit, en m'appelant de mon nom de l'époque, Françoise Izard aura sûrement quelque chose à dire. Et j'ai été prise de saisissement et de cours, je n'avais strictement rien à dire et j'ai simplement pu dire non, un non bref, absolu, massif. Alors comme lui n'avait rien à dire, il était très embêté, oui. Et heureusement, nous avons été tirés d'affaire par un collègue qui avait quelque chose à dire.
Et vous êtes juré de ne jamais faire le même coup à quiconque.
Ah non, hein, je n'ai jamais fait le même coup à quiconque.
Vous avez été Françoise Héritier, donc la première femme ethnologue au Collège de France.
La deuxième femme à y entrer, oui.
Quel souvenir vous gardez de la leçon inaugurale, justement, à ce moment-là ?
J'aurais du mal à vous le dire autrement que dans la frayeur et
des larmes.
J'étais au bord des larmes en commençant. Je m'en souviens très très bien. Il a fallu me dominer parce que il y a quelque chose de saisissant dans le protocole. On arrive à l'époque, c'était avant les travaux. On arrivait dans une petite salle qui était la salle des professeurs où les collègues sont réunis et on attend l'heure fatidique. Et puis il y a un huissier qui vous précède. On entrait dans la grande salle, le grand amphi, précédé par l'administrateur, tous les collègues qui allaient s'installer. Il fallait monter à la tribune. C'était assez saisissant. Et puis, une fois lancé, comme toujours, une fois lancé, le sens de l'à-propos, le sens du discours que l'on doit tenir, le sens de la tenue reviennent. Et mon Dieu, j'en ai gardé un souvenir plutôt agréable, mais le début avait été très difficile.
Oui. Le premier voyage en Afrique, c'est Claude Lévi-Strauss qui vous propose.
C'est Claude Lévi-Strauss qui me propose, et ça me donne l'occasion de lever un malentendu parce que dans la presse, il a été dit une fois qu'il s'était opposé, ce qui était tout à fait le contraire. C'est lui qui m'avait proposé, mais j'avais été refusée par l'organisme qui demandait à l'époque d'ailleurs un ethnologue et un géographe, parce qu'il voulait des garçons. Ouais. Ils ne voulaient pas une fille. Donc, et c'est parce qu'ils n'ont pas eu de candidature masculine qu'ils m'ont accepté en désespoir de cause. Ouais.
Donc c'était un bon point de départ à la réflexion qui a lui suivre sur les rapports entre les sexes. Parce que là, coup, première expérience professionnelle et déjà la question du sexe pose problème.
Absolument, ouais. Absolument. Mais à l'époque, je l'avais mal pris, bien sûr. Mais je n'avais pas encore entamé de réflexion sur cette question. Comme c'était l'usage et l'habitude, je n'étais pas montée au créneau, si vous voulez. Mais par la suite, oui, j'ai connu un certain nombre de déboires de cette sorte.
Ouais. On écoute une nouvelle fois Claude Lévi-Strauss, Françoise Héritier, toujours autour de cette question du langage.
Supposez que l'on vous apporte un dictionnaire et une grammaire comme seul témoin d'une civilisation disparue. Que pourrez-vous conclure touchant cette civilisation à l'aide de ces deux documents ?
Bien, je crois qu'il nous serait possible de reconstituer de cette civilisation à peu près l'intégralité de son contenu. Nous aurions son vocabulaire technique qui nous indiquerait les instruments dont elle se sert. Nous aurions son vocabulaire religieux qui serait un indice de ses croyances. Et surtout, nous pourrions tirer des conclusions très frappantes de l'emploi de figures de grammaticales telles que les métaphores ou les euphémismes. Nous pourrions connaître tous les tabous linguistiques d'une population par le fait qu'elle évite, ou qu'elle recherche, prononcer certains mots. Nous pourrions, par les termes qu'elle emploie, détourner très souvent pour exprimer les besoins naturels ou certaines activités fondamentales de l'homme telles que celles qui se rattachent à la vie sexuelle, l'emphase avec laquelle certaines fonctions, dignité sociale se trouve représentée, nous pourrions connaître sa morale, nous pourrions connaître son organisation sociale. La langue est non seulement le reflet, le miroir de la culture, mais j'irai jusqu'à dire que c'en est l'image la plus profonde et la plus authentique.
Voilà, c'est dire donc l'importance du langage pour une civilisation.
Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et c'est pour cela qu'à votre question, tout à l'heure, je disais que même à travers le sel de la vie ou le goût des mots, qui ne sont pas des ouvrages anthropologiques, je ne dirais pas que s'il ne restait que cela. Je préférais qu'il reste aussi des grammaires, des dictionnaires, oui, et bien d'autres œuvres.
Mais qu'on peut se faire une idée,
mais qu'on peut se faire une idée de ce qu'est notre culture à travers ces ouvrages. Absolument, il a tout à fait raison.
La façon dont on peut reconnaître, en tout cas, une civilisation par ses mots et par cette oralité.
Cette oralité.
Alors, la domination masculine, Françoise Héritier, donc c'est le travail de toute une vie pour vous. Est-ce que les choses ont beaucoup changé aujourd'hui ou est-ce qu'on reste toujours dans les mêmes représentations entre les hommes et les femmes? Quelle analyse on peut faire aujourd'hui en 2013
Je ne dirais pas que j'ai passé ma vie à cela parce que j'y suis venue relativement tardivement après beaucoup d'années consacrées à des travaux vraiment très anthropologiques sur la parenté et l'alliance. Mais j'y été amené justement par ces travaux eux-mêmes, en plus de l'expérience d'une personne dans son siècle. Mais j'y été amené par les travaux de parenté que j'avais accomplis, mais sur lesquels je ne vais pas m'étendre. Mais c'est, alors, qu'est-ce que je pourrais dire ? Je pourrais dire que nous avons l'impression que nous avons considérablement avancé, et c'est vrai, par rapport sur le modèle archaïque dominant qui a été mis en place dans des temps extrêmement reculés. Parce qu'il faut bien nous rendre compte que nous héritons d'un modèle qui a été conçu avec des erreurs de pensée, mais qui tenait justement à l'ignorance. Tous les hommes de Néandertal qui l'ont conçu et qui l'ont transmis aussi, ou de Sapiens qui l'ont eu, ils ne savaient pas qu'il y avait des ovules et des spermatozoïdes. Ils ont conçu un modèle qui intériorisait le fait, qui mettait en avant le fait que les femmes étaient, et les femelles en général dans le monde animal, puisque c'était le cas de tout le monde animal, les femelles faisaient les enfants des deux sexes, les petits des deux sexes. Et donc que les hommes en étaient dédouanés. Mmh. Et en revanche qu'il y avait quelque chose qui était nécessaire, à savoir le coït, et que dans le coït, il y avait un échange de substances qui passait du corps masculin, du corps mâle au corps femelle. Et donc l'idée est que ce sont les mâles qui mettent les enfants dans les femelles.
L'idée est ancienne dans l'histoire humaine. Ça remonte à très très loin.
Elle est créatrice de nos sociétés. Elle est fondamentale, fondatrice de tout le reste. Parce qu'elle implique que les corps féminins sont à disposition des mâles, que la nature est ainsi faite qu'elle a donné aux mâles des femelles pour pouvoir se reproduire eux sans en payer le prix, si je peux me le dire de cette façon. Et pour ça, ça implique que dans le genre humain, ça implique la possession pour chacun d'avoir un corps féminin à sa disposition, et donc à la fois l'échange des femmes, l'exogamie et le mariage qui authentifie la filiation, et puis s'en sont suivis par toute une série de manœuvres. Enfin, c'est le fait que dans la prolongation, les femmes ont été astreintes à l'intime, à l'intérieur, au domestique, et pas seulement à la maternité. Enfin, il y a comme ça toute une série de contraintes.
Donc ça, ce qui est très ancien, ce qui est ancré fondamentalement dans les racines de la nature humaine
Non, 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 c'est pas ancré dans la nature humaine, c'est
dans la représentation
culturelle que nos ancêtres en avaient et qui a été transmise telle quelle.
D'où la difficulté d'en sortir aujourd'hui.
Alors, la difficulté d'en sortir aujourd'hui, ça passe par l'éducation et ça passe essentiellement, et ça je crois d'ailleurs que c'est une bonne politique à l'heure actuelle, par l'élimination des stéréotypes. Parce que les moyens pour maintenir cette domination, moi j'appelle cela la valence différentielle des sexes. Les moyens pour le maintenir, ils sont triples. Et on en est sortis chez nous très progressivement et pas totalement. Le premier, c'était l'impossibilité pour les femmes de disposer de leur corps, se marier, avoir des enfants, etc., choix du conjoint. Deuxièmement, l'impossibilité d'accéder au savoir, parce que le savoir ouvre à l'esprit critique et émancipe, et l'impossibilité d'accéder au pouvoir. Et tout cela s'accompagne du langage de la domination, qui est un langage de déni, de mépris, de dénigrement. Et donc, il faut s'attaquer au langage de mépris et de dénigrement, parce que c'est lui qui fait le lien de ces trois formes, qui vont ensuite servir au cours de l'histoire pour fonder toutes les grandes situations de domination que sont le colonialisme, que sont le patronat, enfin, et toutes les grandes dominations utilisent les quatre mêmes modes de domination qui sont ne pas pouvoir disposer de son corps, accéder au savoir, au pouvoir, voilà, et être l'objet du mépris.
Et tout ça éclaire évidemment d'une façon tout à fait particulière les discussions en ce moment autour de la pénalisation de la clientèle de la prostitution, Françoise Héritier. On peut renvoyer d'ailleurs sur une tribune que vous avez signée dans Le Monde la semaine dernière à ce sujet.
Oui, avec d'autres, j'ai co-signé avec d'autres, effectivement. Oui, parce que je considère pour ma part que tout cela vient justement de cette idée de l'appropriation normale par les hommes du corps des femmes. Et que cette appropriation, qu'ils jugent légitime et dont ils croient qu'il est possible de s'en sortir par le paiement, est une impossibilité au nom, à proprement dit, du fait de l'intégrité de la personne humaine. Bon. Et c'est quelque chose de tout à fait inacceptable. Et pour ma part, la prostitution vient de quelque chose de très archaïque. Elle vient du remboursement du viol. C'est-à-dire qu'autrefois, les femmes étant une valeur, quand on violait une fille, on devait payer quelque chose à l'homme qui en était le détenteur. Et puis quand il n'y avait pas d'homme qui en était le détenteur, on la payait elle. C'est là l'origine de la prostitution.
Et donc le fait de pénaliser la clientèle, vous pensez que ça va faire vraiment, fondamentalement, avancer les choses?
Ça peut faire prendre conscience, au moins, qu'il s'agit là d'un dommage. Et d'un dommage auquel personne ne doit se livrer au détriment du corps d'autrui.
Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait changer aujourd'hui, fondamentalement, pour les femmes, précisément, dans notre pays? Parlons de la France, tiens. S'il fallait prendre une décision fondamentale, selon vous.
Je pense que la toute première consisterait, je pense, à avoir le cœur net de ce que représente le travail féminin. Et il y aurait une entreprise qui consisterait à évaluer dans le produit national brut ce que représente tout le travail féminin caché, ça serait déjà une très bonne chose.
Voilà, c'était la voix de Françoise Héritier en 2013 dans La Tête au Carré. Françoise Héritier disparue cette nuit et que vous pourrez à nouveau entendre tout à l'heure chez Laura Adler à 20h dans l'heure bleue.
J'ai envie de toi.
Bien bel homme, c'était Catherine Ringer à l'instant sur France Inter. Ainsi s'achève cette émission spéciale de La Tête au Carré consacrée donc à Françoise Héritier. Merci à Céline Hila qui l'a réalisée. Antoine Teboul et Pierre-Yves de Rolin étaient avec nous à la technique.